franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le lion est mort. Johnny Hallyday est parti la nuit dernière, 74 ans, cancer du poumon. Jusqu'à 14h sur France Inter, la France de Johnny, les ressorts de cet immense succès populaire. Nous irons à Marne-la-Coquette où il s'est éteint en début de nuit. Les admirateurs sont de plus en plus nombreux. L'Olympia à Paris, un tour de France des réactions, paroles de fans de la Normandie à la Lorraine, de Toulouse à la Réunion en passant par Poitiers. On a tous quelque chose de Johnny Hallyday, dit le président de la République Emmanuel Macron. Alors quoi? Eh bien c'est ce que nous essaierons de comprendre avec nos invités, le biographe et ancien rédacteur en chef de Paris Match Patrick Mahé, l'écrivain Daniel Rondeau, celui qui a peut-être le mieux confessé Johnny. D'autres invités encore, nous vous les détaillerons au fil de cette édition spéciale. Et à mes côtés, dans les studios de France Inter, Mathieu Culeron, Mishka Assayas et Eva Bétan. Les autres titres de l'actualité, Emmanuel Macron en Algérie, l'inquiétude mondiale avant le discours de Donald Trump sur Jérusalem, le débat sur la hausse automatique ou pas du SMIC et une opération chirurgicale hors du commun. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour à tous.
Des nuages au nord, du soleil dans le sud.
Et oui, pour pas changer, la grisaille va résister sur une bonne moitié nord du pays, du côté de la région Poitou-Charentes aussi, le long du Val-de-Saône et localement près de la Garonne. Partout ailleurs, le soleil va s'imposer petit à petit en gagnant même la région Centre, le Jura et les Vosges. En revanche, les nuages resteront bien présents le long des côtes de l'Aude et de la Côte d'Azur. Côté température, les maximales seront comprises entre 3 et 8 degrés dans l'Est, 7 à 12 en général et entre 12 et 15 autour de la Grande Bleue.
Merci Jean-Pierre Hameau. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h, exceptionnellement jusqu'à 14h. Et nous allons donc vous la raconter, cette France qui parle et chante Johnny, qui le pleure parfois, qui l'aime ou qui ne l'aime pas. La France de Johnny, les motards tatoués et les intellos qui se penchent sur le phénomène, entre guillemets, ceux qui traversaient le pays pour un concert à Bercy, ceux qui avaient un peu honte de l'avoir dans leur téléphone mais l'écoutaient quand même, les imitateurs du dimanche, les people. La France de Johnny est d'abord bon sang de bois, une minute d'énergie.
Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, moi je suis dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né, né dans la rue. Je suis dans la ville où les murs sont toujours gris. Derrière un terrain vague où se trouvent les taudis. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne fais pas sourire. Je suis né dans la rue, je suis né, né dans la rue, dans la rue. Hey!
Je suis né dans la rue, version concert. On va laisser tout doux, les notes de guitare. Car c'est ça aussi Johnny et ce que nous vous racontons aujourd'hui, ce mélange de musique et de chagrin. Le chagrin par exemple, ces deux dernières réactions, celle de Nathalie Baye, mon chagrin est immense, dit l'ex-compagne de Johnny Hallyday. Ou encore Charles Aznavour qui parle de la perte d'un personnage hors du commun, Charles Aznavour qui se dit frappé douloureusement. Au cours de ce journal, nous irons dans des lieux emblématiques et d'abord celui de la mort de Johnny, Marne-la-Coquette. Ce matin, le chanteur est partout en France et particulièrement dans cette commune des Hauts-de-Seine. Bonjour Sébastien Sabiron.
Oh ben oui.
Sébastien Sabiron à Marne-la-Coquette, est-ce que vous êtes avec nous Sébastien?
Oui, je suis avec vous.
Merci. Les fans affluent de plus en plus nombreux à Marne-la-Coquette Sébastien.
Oui, seul ou en famille, parfois une rose à la main, ils défilent devant les larges grilles du parc abritant la Savana, la demeure de Johnny. José, 800 concerts au compteur.
Comme il parlait de la tournée 2018, toi, j'étais parti encore pour acheter des places. Moi, pour moi, c'est le top. Je dis, tu enlèves la tour Eiffel, tu mets Johnny. Moi, je serai le président. Faut être fier, les Français.
Fier de l'idole, amoureux de ses chansons qui évoquent tant de souvenirs à Michel, 70 ans. Elle a marché plus d'une heure pour lui rendre hommage.
Le pénitencier, que je t'aime, bien sûr, restait vivant. C'est une vraie peine. Il a bercé toute ma vie depuis l'âge de 14 ans. C'est un membre de ma famille, Johnny. Je l'aime, point.
Dans son blouson en jean à l'effigie du taulier, Jean-Marie ravale un sanglot. Pour lui comme pour André, pour sans Johnny, la fête est finie.
Je vais avoir 50 ans le 22 décembre. Je voulais faire une grande fête, mais là, je suis dégoûté de faire la fête.
Moi, j'ai 68 ans. Et Johnny, depuis l'âge de 10 ans, j'avais des posters quand j'étais gamin dans ma piole et tout. Il n'y en a plus des comme lui, il n'y en aura plus.
Car personne, me dit-on, ne pourra rivaliser avec la bête de scène qu'il était. Annie l'a découvert au casino de Royan en 1960.
Il avait 17 ans, après on allait dans sa loge, il était très accessible. Au début, il était un peu timide, c'était pas la bête de scène. Puis après, au fil des années, tous ses spectacles, c'était monstrueux, hein. J'ai été voir le dernier au Stade de France avec mes petits-enfants. D'ailleurs, je leur ai dit, le jour où je partirai, vous me mettez à l'église une chanson de Johnny.
Quelle chanson ?
Allumez le feu.
Et voilà, en attendant peut-être que les anonymes allument des bougies devant les barrières déployées par la police, quelques personnalités viennent aussi se recueillir. On a notamment reconnu ce matin le réalisateur Claude Lelouch.
Sébastien Sabiron, en direct de Marne-la-Coquette, on entend des chansons derrière.
Soudain sur ton corps dessine des paysages et des...
Voilà, et les sons, c'est au micro de Raymond Albouy. Mais c'est bien d'entendre les gens chanter Johnny, même si c'est pas forcément très juste. On va entendre d'autres paroles de fans à travers toute la France, en Lorraine, à Cherbourg, à Toulouse, en Normandie, à La Réunion, à Poitiers. C'est parti.
Oh ben oui, ça me fait quand même... Je suis un peu triste. Mais bon, moi, je l'ai connu dans les années 80, où je le préférais, quoi, physiquement. C'est la justice, la mort. Pauvre, riche, on meurt. Retiens la nuit, moi j'aime bien. Retiens la nuit. Nanana, 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 nanana.
Amine a 24 ans, il me connaît Johnny Hallyday, mais il me connaît 2-3 chansons, Omari, on a fait comme ça, mais ouais. C'est un grand musicien, ouais. Il a fait beaucoup de choses pour la France déjà. Et ben les tristes qu'il y a parti, et ben voilà, c'est la vie aussi après, ouais.
Comment t'es fait encore, Omari ?
Omari, si tu savais tout le mal que tu m'as fait.
C'est un dieu. Il arrive sur scène, tout le monde se tait. On l'entend et on le voit et c'est magique.
C'est notre médicament. Quand on n'est pas bien, qu'on a un coup de blues, on met du Johnny et on est bien. Un coup de Johnny, ça repart.
Tu reviendras, tu me diras, je t'aime.
Rock'n'roll. Dans ces chansons, c'est ma vie qui... C'est, pour moi, ces chansons, c'est un film. C'est ma vie, elle reflète ces chansons.
J'étais rocker toute ma vie. Mais ben, là, il me choque, oui. Parce qu'il n'avait pas le droit de partir comme ça. Et laisser tous ses fans qui vont être vraiment dans la peine.
C'était quelqu'un de bien.
Vous êtes la fan ?
Ah oui, alors là, c'est vraiment oui.
J'ai un fils qui s'appelle Johnny par rapport à ça déjà. Ah oui, il m'a touché vraiment le cœur. J'ai acheté beaucoup de livres, beaucoup de gadgets, j'ai beaucoup de trucs de lui. Donc voilà, c'était triste, franchement.
Il a fait chanter tout le monde. Dans les années 60, je l'aimais mieux que tout de suite. Mais bon, c'est triste.
Voilà, pour ces propos recueillis par nos confrères de France Bleu. À l'instant, on apprend que la ville de Limoges a décidé de rendre hommage à Johnny en diffusant ses chansons tout au long de la journée dans les rues piétonnes du centre-ville. Voilà, ça se passe à Limoges. On verra qu'à Bruxelles aussi, dans le métro, on entend des chansons de Johnny aujourd'hui. On parlera beaucoup de la musique dans la deuxième partie de ce 13-14, mais quand même un premier zoom sur un aspect de la carrière musicale de Johnny. C'était l'homme des grands concerts, des grands stades dans lesquels il allumait le feu. Voilà, ça marche dans la demi-seconde, hein, Mathieu Culeron. C'est vraiment une des particularités de la vie, de la carrière de Johnny, ces concerts géants.
Oui, et ce sont des images qui nous restent. Johnny sous un chapiteau de cirque avec des cracheurs de feu et des motards au début des années 70. Johnny qui fend la foule et qui frôle l'étouffement pour ses 50 ans au Parc des Princes. Johnny qui fait affréter des avions de fans direction Los Angeles en 96. Des jets qui portent le nom de ses chansons. Imaginez, c'est la folie totale.
Incroyable.
Johnny déposé en hélicoptère par Michel Drucker au Stade de France en 98. Et puis cette vision presque irréelle d'un Johnny sortant d'une main géante qui s'ouvre mécaniquement dans un nuage de fumée. Bref, jamais un chanteur n'aura fait autant de propositions en 60 ans de carrière, des shows à l'américaine pharaoniques, qui à une certaine période coûteront d'ailleurs un peu plus cher que ce qu'il pouvait rapporter. Johnny qui a une conscience presque animale de la scène. Écoutez ce qu'en dit Gilles Lott, son biographe et ami, justement sur cet instinct hors norme.
On est toujours frappé par ce rituel où quand il découvre une scène, il y va, il part tout seul, il faut le laisser tranquille parce qu'il est, c'est presque un moment spirituel. Il marche sur la scène, il marche, il sent, il respire, il regarde la salle, il va dans la salle, il s'assied, il remonte sur la scène. Donc il y a une reconnaissance comme ça qui est tactique et technique, qui est très très importante. Tout ça, ça vient de l'enfance. Hallyday a toujours été hanté par son enfance.
Voilà, une enfance qu'il va passer sur et à côté de la scène, un peu partout en Europe. Johnny Hallyday qui va aussi prendre des conseils auprès de stars de la chanson de l'époque, Maurice Chevalier, qui lui dira cette fameuse phrase « Soigne tes entrées et tes sorties, petit, pour le reste, tu te démerdes ». Johnny fera bien mieux, sa voix n'a cessé d'évoluer, de se densifier. Johnny, de plus en plus puissant jusqu'à cette dernière tournée avec les Vieilles Canailles, l'homme est durement touché par la maladie, mais la bête de scène était encore là.
Et les informations qui tombent et les réactions plus de 12 heures après la mort de Johnny Hallyday, on apprend que l'Olympia va inscrire en lettres rouges sur sa façade le nom de Johnny Hallyday le jour de ses funérailles. On n'a pas encore la date des funérailles. L'Olympia, nous y allons maintenant. Bonjour Philippe Rendé.
Bonjour.
Dans ce lieu emblématique, vous avez là aussi recueilli des paroles de Français sur Johnny Hallyday.
Oui, un fan nous le disait il y a quelques minutes, hein, l'Olympia, c'était la deuxième maison de Johnny. Et pour cause, l'homme aux 40 disques d'or a donné ici 266 concerts, dont celui de 1973 auquel Didier a assisté. 44 ans plus tard, ce fan de Johnny est venu ce matin à l'Olympia.
J'ai suivi pendant toute sa carrière. J'étais au premier rang une année en 1973 à l'Olympia. On était monté sur scène. Ouais, je lui serrais la main. C'était extraordinaire, ça les souvenirs, ben, impérissables, la preuve. J'ai essayé de pas pleurer ce matin, mais j'ai pleuré, c'était plus fort que moi.
Plus fort que Didier, probablement plus fort que des centaines de milliers de Français qui vont dans les jours qui viennent partager ce deuil tant redouté. Olivier s'attend à un hommage hors norme.
Ça a été énorme, quand Elvis est parti, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, bah là maintenant... À mon avis, ça sera dans le même style au niveau français. Je sais pas où il va être enterré, mais il n'y a pas de place nulle part. On va l'enterrer au quoi? Au Parc des Princes? Au Stade de France? Et encore, il serait archi plein et archi comble.
Hélène, elle a plus de 80 ans. Et ce matin, avant d'aller chez le coiffeur, elle a tenu à passer devant l'Olympia pour humer une dernière fois le vent de sa jeunesse.
Les yéyés, les chaussettes mortes, les machins, les tout, moi... J'avais 20 ans, j'avais la liberté, les jeunes qui s'éclataient... On mettait plus le soutien-gorge, c'était la liberté de tout. Je dansais, on l'écoutait, on chantait. On était heureux à l'époque plus que maintenant, je crois.
À quelques centaines de mètres de la gare Saint-Lazare, deux Parisiens jouent du Johnny sur un piano. Ici à l'Olympia, pas de rassemblement officiel hein, prévu pour l'instant. Mais vous l'avez dit, la salle inscrira donc le nom de Johnny Hallyday sur sa façade le jour de ses obsèques.
Merci Philippe Rendé. Alors je ne sais pas s'il sera enterré à l'Olympia ou au Stade de France. Johnny, ce qui est sûr, c'est que pour ce bâtard, à son enterrement, eh ben, il y aura le président de la République. Le couple Macron assistera aux obsèques privées. Est-ce qu'il y aura des obsèques nationales et sous quelle forme? Pas encore de réponse à ce stade. Les premiers mots hommage de l'Élysée sont arrivés une demi-heure après l'annonce de la mort de Johnny la nuit dernière. On a tous quelque chose de Johnny Hallyday, dit ce communiqué de l'Élysée. Nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations. Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre panthéon national. Et à l'instant, Emmanuel Macron, qui est désormais à Alger, a ces mots à propos de Johnny Hallyday. Il fait partie des héros français. Autre réaction politique, autre réaction d'un président de la République, ancien président François Hollande.
Nous savions que Johnny était malade, gravement malade, mais nous aurions tellement voulu le retenir. Et ce qui touche les Français, c'est qu'il a été un homme généreux. Il a toujours tout donné pour son public et pour la musique qui lui était chère. Et c'est pourquoi qu'il avait réussi à toucher toutes les générations. Et chacune d'entre nous a toujours... une image de Johnny ou un souvenir de ce qu'il a pu nous faire éprouver. Il avait un immense talent, mais il savait aussi partager et se donner entièrement dans ses spectacles. Je pense qu'il sera retenu de Johnny, c'est qu'il est un élément de notre patrimoine national. Et nous aurons toujours sa voix à l'esprit et en mémoire. Et si lui n'est plus là, ses chansons sont encore là et nous l'entendrons toujours.
Voilà pour l'hommage de François Hollande, hommage encore celui de Nicolas Sarkozy. Johnny va laisser un vide que personne ne pourra jamais combler. L'artiste, on le sait, avait le cœur franchement à droite. Fan parmi les fans, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui organise un rassemblement à 19h ce soir dans sa ville et qui dit d'ores et déjà qu'il y aura une rue Johnny Hallyday à Nice. Autre fan, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a ces mots. On a tous quelque chose en nous qui meurt aujourd'hui. La cicatrice traverse trois générations, dit Jean-Pierre Raffarin. Romain, la mienne, celle qui était en fraternité avec Johnny parce qu'il a accompagné toute notre vie, notamment la plus belle part, celle de la jeunesse, la génération de nos parents à laquelle nous l'avons fait aimer et celle de nos enfants qui ont appris sa musique avant leurs paroles. Alors ce n'est pas une hagiographie non plus de raconter la vie de Johnny. Il y a eu des moments de creux, des moments de doute, des moments d'addiction, des moments de lose, pour le dire franchement et autrement. Le cinéma, Johnny au cinéma, il en parlait à Frédéric Bonneau sur France Inter, lui qui a tourné avec Godard, avec Lelouch, avec Costa Gavras. Écoutez ce qu'il en disait.
Moi je trouve que c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus passionnant à jouer même. De jouer à loser que de jouer le rôle de quelqu'un à qui tout réussit. Bon. Vous savez, moi j'ai adoré toute une période de cinéma, comme notamment sur la boxe, comme nous avons gagné ce soir, où le boxeur à la fin il se fait écraser les mains, parce qu'il a quand même gagné alors qu'il avait l'ordre de perdre. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est que moi ce qui m'a plu au cinéma, c'est les rôles intéressants, c'était toujours des rôles de losers.
Johnny et le cinéma, on en reparle en détail avec Eva Bétan dans la deuxième partie de ce 13-14 avec nos autres invités également. Pas d'hagiographie donc, il faut le dire, Johnny c'était aussi un personnage moqué, caricaturé, son français parfois approximatif. Ça c'est le Johnny de A que coucou qui a fait les belles heures des Guignols. Écoutez l'imitateur Yves Lecoq avec Alexandra Akoun.
Dès le début des Guignols, il y avait sa marionnette même dans les maquettes. Puis après ça, bon, il y a eu cette fameuse boîte à coucou amenée par François Rollin qui a lancé la légende à queue, quoi.
Il l'aimait pas beaucoup, hein, cette marionnette.
Alors, il l'aimait pas. C'est vrai qu'elle était pas très ressemblante, hein. Johnny était quand même un beau gosse et là, ils avaient fait une caricature comme tous les Guignols du début. Hein. C'était des caricatures, c'était pas des portraits. Et puis, il l'aimait pas, mais il a fait la paix avec. Il est venu couper son nez sur le plateau pour dire que le nez était trop grand et qu'après tout, il prenait ça en bon prince, c'est-à-dire qu'il acceptait la charge parce qu'elle était toute à sa gloire, quoi.
Il y a quand même un moment où il a envoyé ses gardes du corps vous casser la figure.
Non, il les a pas envoyés. C'est-à-dire que ses fans qui l'ont suivi, on était en direct à l'époque, donc quand je suis sorti par la porte après l'émission, j'ai entendu une clameur, j'ai dit, ah, j'ai du succès. En fait, c'était des insultes. Parce que ceux-là savaient que Johnny était affecté par rapport à sa fille Laura, de cette boîte à coucou à l'école, qui était devenue un gimmick. Donc, ils voulaient venger leur idole, c'est tout.
Alors, dans la série Les Bémols que nous mettons à cette émission et à cet hommage général à Johnny, il faut bien dire une vérité qui est que à l'étranger, ça n'était pas l'artiste français le plus célèbre, loin de là. Nous allons en Grande-Bretagne. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Que retient-on de Johnny Hallyday ce matin chez vous à Londres, Antoine ?
Bah, on constate surtout que c'est un visage totalement inconnu qui s'affiche dans les journaux. La presse tente d'expliquer le paradoxe Johnny Hallyday, une légende en France, résume l'Evening Standard, mais dont les anglo-saxons n'ont jamais entendu parler. Le French Elvis, l'Elvis Presley français, a vendu 110 millions d'albums avec une carrière qui a duré près d'un demi-siècle, mais il n'a jamais réussi à toucher le marché britannique, constate le Financial Times. Bien que ses inspirations soient américaines, il n'a jamais atteint une grande popularité en dehors du monde francophone. Et pourtant, il y a de vrais liens entre Londres et Johnny Hallyday. Après la séparation de ses parents, c'est en Angleterre qu'il a habité avec l'une de ses tantes, rappelle le Daily Mail, et c'est en Angleterre surtout qu'il a rencontré en 1946 Lee Hallyday, chanteur, danseur acrobatique, qui lui a donné l'idée de prendre ce pseudonyme et qui lui a servi de premier impresario. Il y est revenu plusieurs fois, note le Daily Telegraph, pour enregistrer des disques, pour faire la fête aussi avec Jagger, Lennon, Rod Stewart, Keith Richards, mais des concerts ici, il y en a eu très peu. Le dernier, c'était en 2012 au Royal Albert Hall, salle comble, mais tous les sièges avaient été achetés, note le Télégraphe, par des Français expatriés.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Il y a des hommages hein, venus de l'étranger et nombreux depuis 2h44 du matin. Je vous signalais tout à l'heure que le métro belge diffuse des titres de Johnny dans ses couloirs. Il y a des mots de chagrin venus et de gratitude signés Bryan Adams, Lenny Kravitz, Céline Dion, entre autres. Ce matin, une invitée exceptionnelle sur France Inter qui connaît très très bien Johnny Hallyday, Céline Renaud, celle qui avait découvert le jeune Jean-Philippe Smet au début des années 60. Lynn Renaud, l'Amérique, le showbiz et surtout une intime jusqu'aux derniers instants. Invitée de Léa Salamé, donc ce matin sur France Inter, bah non, Johnny n'est pas mort.
Ça sera pas sans Johnny Hallyday. Johnny ne mourra pas.
c'est trop fort. Le lien créé entre le, Johnny et la nation et de toutes les générations, et c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France. Enfin, 500 000 personnes sous la tour Eiffel, et puis toutes ces années de fidélité du public vivant au rythme des chagrins de Johnny, des bonheurs de Johnny.
Lynn enfin, Renaud, pourquoi lui ?
Il avait quelque chose en plus. D'abord, il était très beau. Il avait un charisme. Il n'y a pas d'école pour le charisme.
Sa vie commence comme du Zola. Il est abandonné par son père. C'est sa tante qui va l'élever. Ce manque d'amour à l'origine, est-ce que ça fait ce qu'il va devenir également ?
Je pense que ça lui a donné ce côté battant. Je vais lui prouver à mon père, parce que c'est un type qui veut prouver.
Et prouver en étant sur scène, il était encore sur scène il y a 4 mois avec les Vieilles Canailles, oui, contre la vie médicale.
Ah mais complètement. Enfin, c'est un surhomme, parce que n'importe qui d'autre que Johnny, il y a 4 mois, n'aurait pas été sur scène. C'est un guerrier. Il ne mourra jamais.
Allez, dans cette édition spéciale consacrée à Johnny Hallyday jusqu'à 14h, nous allons voir les autres titres de l'actualité dans une seconde. Mais d'abord, un témoignage en longueur sur Johnny Hallyday avant d'entendre nos invités entre 13h30 et 14h. Celui de l'écrivain Daniel Rondeau, qui a réalisé l'une des interviews les plus célèbres de Johnny en 1998 dans Le Monde. La star y parlait notamment de ses addictions. Daniel Rondeau, lorsqu'il a connu Johnny, il était tout jeune reporter. Il travaillait pour une radio locale de Nancy. C'était dans les années 70. Écoute, écoutez-le au micro d'Ilan Amor-Youssef.
J'avais déjà compris qu'il serait un personnage important de notre paysage. Je l'avais compris puisque j'avais travaillé pendant plusieurs années en usine et j'avais bien vu qu'à l'usine, quand on voulait prendre un petit moment de pause ou de récréation, parfois il arrivait que quelqu'un commence une chanson de Johnny et tout le chantier reprenait cette chanson de Johnny, la chanson de Johnny. C'est-à-dire qu'il y avait, il était entouré d'une ferveur populaire assez incroyable.
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?
Pendant la tournée des Vieilles Canailles. J'habite en Champagne et j'ai vu un jour qu'il allait chanter à Dijon. Avant le concert, je n'étais pas bien. Il était en train de respirer de l'oxygène et malgré tout, alors qu'il était dans un état déjà de fatigue intense, il a fait son show presque intégralement avec toujours le sourire aux lèvres et une voix incroyable. Simplement, le concert a été amputé d'une demi-heure. Brusquement, les lumières se sont éteintes, il nous a souhaité bonne soirée. Et en fait, tout le monde a compris que le concert s'arrêtait, était amputé d'une petite demi-heure, parce que Johnny ne pouvait pas chanter. J'ai même vu des gens qui étaient près de la scène, qui pleuraient près de la scène. C'est ça que je trouve assez admirable, c'est-à-dire cette volonté de rester sur scène jusqu'au bout. La scène, c'était pour lui, c'était vraiment la vie. C'est là qu'il ressuscitait tous les soirs.
Est-ce qu'il avait conscience de ce qu'il représentait en tant qu'artiste en France et de ce qu'il laisserait ?
De ce qu'il laisserait, je ne sais pas, on ne sait jamais ce qu'on laisse. De ce qu'il était, oui. Il avait conscience qu'il était le roi du rock'n'roll en France. Donc il était le roi. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, sa mort et les semaines qui ont précédé sa mort ressemblait un peu à la mort du roi. Les gens se demandaient tous les jours, pas uniquement dans les rédactions ou dans les salles de presse, mais les gens très ordinaires se demandaient « Est-ce que tu as des nouvelles de Johnny ?» Moi, je voyais des garçons de café qui savaient que je connaissais Johnny, qui venaient me voir en me disant, discrètement, en me disant « Et alors, Johnny, vous savez des choses, comment va-t-il ?» La France s'inquiétait pour lui et la France l'aimait et je crois qu'il le savait.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee,
Tennessee, composé par Michel Berger. Vous aurez reconnu la voix de Nathalie Baye au tout début de la chanson. Souvenir, souvenir, c'est une journée spéciale Johnny sur France Inter pour ce journal de 13h. Ça continue dans un peu plus de 5 minutes avec nos invités. Et pour le reste de la journée, c'est à partir de 16h un spécial pop-pop-pop avec Antoine Decaune et puis plein de rendez-vous jusqu'au bout de la nuit. Si vous voulez nous parler de votre Johnny, le standard est ouvert d'ores et déjà et vous pourrez dialoguer notamment avec Fabienne Synthèse dans le téléphone sonne 01 56 40 55 35. Ce n'est pas le même numéro que d'habitude. 01 56 40 55 35 pour nous parler de votre Johnny. Et nous en reparlons avec Eva Bétan, avec Mathieu Culeron, avec Mishka Assayas et nos invités dans un peu plus de 5 minutes. D'abord les autres titres de l'actualité. D'abord celui-ci, le président français dans un pays avec lequel les relations sont toujours complexes. Emmanuel Macron en Algérie. Il est arrivé il y a 2 heures quasiment, minute pour minute. Envoyé spécial de France Inter à Alger, Bertrand Galichet.
Ici, dans le centre d'Alger, un bain de foule très sportif pour Emmanuel Macron, de la Grande Poste à la place Abdelkader, le long de l'ancienne rue d'Isly où le président français a été accueilli par des youyou, 200 mètres d'un parcours qui a duré près de 45 minutes, avec de longs moments de bousculade, de mots de bienvenue, mais aussi d'interpellation par des jeunes demandant des comptes à la France pour la colonisation. Le président Macron a été au contact, entamant des discussions souvent très animées. Pour le président français, il n'y a pas de sujet tabou entre la France et l'Algérie, mais il estime que la jeunesse algérienne, qui n'a pas connu la colonisation, doit tourner la page, se préoccuper de l'avenir et développer le pays. C'est ce qu'il a expliqué calmement à un jeune Algérien qui tentait de le pousser dans ses retranchements. Un peu plus tard, un autre jeune, né de parents algériens mais ayant vécu en France, l'a au contraire remercié pour l'éducation gratuite qu'il a reçue dans l'Hexagone et qui a assuré son avenir. C'est difficile, a conclu ce jeune franco-algérien, mais avec des efforts, on y arrive. Un message qui a ravi Emmanuel Macron. Alger, Bertrand Galichet, France Inter.
Dans l'actualité encore, l'inquiétude mondiale. Le terme n'est pas galvaudé avant le discours. Ce soir de Donald Trump, le président des États-Unis devrait reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Il devrait lancer le processus de déménagement de l'ambassade des États-Unis dans le pays de Tel Aviv vers Jérusalem. France Inter, dans la ville trois fois sainte. Reportage d'Étienne Monin.
Nour Odeh fait partie de la jeune génération palestinienne. Elle a été porte-parole dans le précédent gouvernement. Jérusalem, dit-elle, est aujourd'hui au centre des préoccupations.
C'est clairement un sujet de discussion central en ce moment, et pour les politiciens et pour les gens ordinaires.
Même s'ils ont perdu toute influence sur la ville, le lien à Jérusalem reste fort pour les dirigeants palestiniens. Ils veulent faire de la partie est leur capitale. C'est l'un des rares sujets de consensus.
Les Palestiniens ont des opinions et des débats très tranchés surtout, mais sur Jérusalem, ils sont d'accord et ils ont toujours été d'accord pour dire que Jérusalem est centrale à la fois pour notre identité et pour notre cause nationale.
Les déclarations palestiniennes sont aujourd'hui menaçantes derrière Jérusalem. C'est le processus de paix qui est en jeu et la capacité des Américains à jouer les médiateurs, explique Mustapha Barghouti, figure de la société civile.
Ça voudrait dire la fin des accords de paix et ça voudrait dire aussi que l'Amérique se met dans l'impossibilité de jouer un rôle de médiateur à l'avenir.
C'est le paradoxe. Donald Trump prépare cette annonce au moment où son administration finalise le plan censé relancer la confiance et les discussions de paix. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Faut-il augmenter le SMIC chaque année? Un rapport d'experts recommande au gouvernement de mettre fin à l'augmentation automatique du SMIC chaque année. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, balaye d'un revers de la main cette hypothèse. Elle se déclare attachée au principe d'une progression automatique, mais Laurent Kramer, le débat est lancé. Bonjour Laurent.
Bonjour Bruno.
Selon ce groupe d'experts, l'augmentation automatique du SMIC chaque année serait en quelque sorte toxique pour l'économie française.
Oui, et augmenter le SMIC n'aurait aucun effet, ni sur le chômage, ni sur la pauvreté, et coûterait au final très cher à l'État en exonération de charges, explique l'économiste Gilbert Sedd, président de ce groupe d'experts sur le salaire minimum.
Alors nous montrons dans ce rapport que l'augmentation du SMIC ne réduit que marginalement la pauvreté. On est un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvres. On a le niveau du SMIC net le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. Tous les gouvernements, depuis le début des années 1990, droite et gauche, ont toujours reconnu que le niveau du SMIC pouvait être préjudiciable à l'emploi. Et on a dû, depuis le début des années 90, contrebalancer les hausses du SMIC par de très fortes baisses des contributions sociales, entre 22 et 25 milliards d'euros par parents pour que le coût du travail ne soit pas trop élevé, ne dissuade pas l'emploi. C'est un coût considérable, vous voyez, qui ne permet pas de lutter contre la pauvreté.
La France serait donc engagée dans une spirale infernale, exonération de charges qui pèse lourdement sur les finances publiques dans le seul but d'inciter les entreprises à embaucher avec un SMIC trop élevé. Cette démonstration fait dresser des cheveux sur la tête côté syndical. Jean-Claude Mailly à Force Ouvrière.
C'est une analyse qui est partagée par des économistes de tendance libérale qui composent pour l'essentiel le groupe d'experts. D'autres écoles économiques, je pense aux keynésiens ou à d'autres, pensent que le SMIC n'est pas un problème. Après, on peut discuter des exonérations, etc. Ça, c'est un autre dossier. Mais considérer que le chômage en France est dû au fait que le SMIC soit trop élevé, c'est non seulement une erreur économique, mais c'est aussi une erreur sociale.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ne semble donc pas vouloir s'engager sur une remise en cause de cette augmentation automatique du SMIC, à peu près 1% chaque année, mais ne parle pas non plus de coups de pouce supplémentaires dans le salaire minimum 2018. Les annonces à ce sujet sont attendues le 18 décembre prochain.
Merci Laurent Kramer. Avant la météo et puis Johnny, le récit de cette première mondiale. Hier après-midi, à l'hôpital à Vicennes de Bobigny, près de Paris, un chirurgien a opéré une personne de 80 ans environ. C'était la pose d'une prothèse d'épaule avec un casque de réalité augmentée. Véronique Julia.
En s'équipant du casque, le chirurgien Thomas Grégory ajoute à son champ de vision un véritable tableau de bord. Devant ses yeux, il peut faire défiler le squelette en 3D du patient, préalablement enregistré au scanner. Il peut revoir aussi les étapes de l'opération, accéder aux constantes du patient, communiquer aussi avec des équipes extérieures au bloc opératoire. D'un geste, mais sans toucher l'écran, il peut agrandir l'image. D'un mot, il peut la faire pivoter. Principal avantage, il voit, grâce à la machine, des détails invisibles à l'œil nu.
On opère comme d'habitude, on a simplement des informations en plus par rapport à d'habitude. C'est un petit peu comme si vous mettez Saint-Exupéry dans un cockpit d'Airbus, il ne va pas perdre ses repères, il va simplement avoir de la technologie qui va lui rendre la vie plus facile.
La pose d'une prothèse d'épaule est réputée particulièrement compliquée. Le casque ajoute à la maîtrise du geste, on gagne du temps, de la précision et de la sécurité.
C'était une patiente qui était très petite, donc déjà on a en moyenne peu d'os pour pouvoir ancrer la prothèse. Dans ce cas particulier, c'était particulièrement difficile parce que le capital osseux était vraiment très 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 limité. Mais là, après, c'est devenu un jeu d'enfant parce qu'on voyait tout ce qui était derrière, on savait exactement où mettre la prothèse.
Hier, c'était la première d'une longue série, sans doute, puisque le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Avicenne compte banaliser cette technologie dès aujourd'hui pour toutes ces poses de prothèses d'épaule.
Il nous reste à voir le temps de ce jour.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Jean-Pierre Hameau.
C'est classique en hiver, en situation anticyclonique, l'humidité de l'air est plaquée au sol et le soleil a bien du mal à réchauffer l'atmosphère. Du coup, la grisaille va résister cet après-midi dans la moitié nord, sans oublier le Val-de-Saône et la vallée de la Garonne. Partout ailleurs, le soleil va briller en gagnant les massifs jurassiens et vosgiens, ainsi que la région centre. Un bémol tout de même, le ciel sera nuageux le long des côtes de l'Aude et le long de la Côte d'Azur. Les températures sont comprises entre 3 et 8 degrés dans l'Est, 7 à 12 en général, et entre 12 et 15 degrés autour de la Grande Bleue. Changement de programme demain avec l'arrivée d'une perturbation venteuse et pluvieuse par le nord-ouest. Seules des régions allant des Pyrénées aux frontières de l'Est seront épargnées. En revanche, le soleil sera souvent caché par un voile de nuages bien inoffensif.
Voilà pour la météo de Jean-Pierre Hameau et l'édition spéciale consacrée à Johnny Hallyday jusqu'à 14h sur France Inter. Il n'y a pas de publicité, dites-moi, je ne sais plus s'il y a... Non, il n'y a pas de publicité, on enchaîne tout de suite. Eh bien, c'est parti! Nous enchaînons jusqu'à 14h avec tous nos invités et nos spécialistes. Bonjour Mishka Assayas.
Bonjour.
Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
Et au téléphone avec nous, bonjour Michel Mallory.
Bonjour.
Parolier de Johnny Hallyday, ô combien important, 170 morceaux avec lui pendant 10 ans, de 72 à 82. Vous êtes l'un de ses principaux paroliers, Michel Mallory. On va parler notamment de toute la musique que j'aime. Des éléments d'abord sur l'homme Johnny. Quel souvenir gardez-vous? Il y a une chose qui revient beaucoup, Michel Mallory, c'est sa gentillesse.
Oui, je pense que au-delà de sa gentillesse, il y avait aussi humainement une véritable générosité. Mais pas une générosité de façade, rien d'ostentatoire, c'était toujours Il m'a donné des preuves de cette générosité des dizaines de fois, et quand j'apprenais que c'était lui qui avait agi pour que les choses se débloquent, notamment sur des choses financières ou des choses comme ça, ou simplement le coup de fil au bon moment où on en a le plus besoin,
oui.
C'était un homme d'une générosité incroyable. Et ce matin, j'écoutais dans les commentaires que faisaient pas mal de gens, oui, sur les antennes,
oui.
On parlait de, quelqu'un disait qu'il n'était pas un homme de conflit. Alors Johnny n'était pas un homme de conflit parce qu'il n'a jamais réussi à se fâcher réellement avec quelqu'un. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une seule personne avec qui il n'a pas pu se réconcilier, parce que cette personne est décédée avant.
Ouais.
Mais sinon, il s'est réconcilié avec tous les gens avec qui il a pu être fâché un jour.
Et par exemple, il s'est réconcilié les derniers temps avec Jean-Claude Camus. C'était facile de travailler avec Johnny comme parolier, Michel Mallory?
Ben, c'est-à-dire que moi j'avais un statut un peu particulier, c'est que on vivait pratiquement ensemble. C'est-à-dire que je chantais dans ses tournées, on était en studio ensemble. Quand on était à Londres, par exemple, on habitait dans la même suite. Donc moi je travaillais, c'est-à-dire que je m'étais transformé en éponge en fait. Et je prenais tout ce qui... je regardais sa vie et j'essayais de m'approcher le plus près possible de ses sentiments ou ses ressentiments. Et en tout cas, j'avais fini par savoir les mots qu'il ne dirait jamais et les mots qu'il adorait dire. Et finalement, il y avait une espèce d'osmose, une, ouais, espèce d'osmose entre nous. On était
un vrai couple.
Une espèce d'association...
Ouais.
De malfaiteurs ou de bienfaiteurs de chansons. Voilà.
Alors, toute la musique que j'aime, racontez-nous cette chanson,
ah ben,
Michel Mallory.
Cette chanson, c'est ce que j'appellerais la chanson miracle. Johnny et Sylvie étaient en train de se séparer.
Ouais.
Là, c'était pour la première fois,
ouais,
donc ça n'était pas définitif. Et Johnny était parti aux États-Unis. Et il m'avait dit, quand je reviens, on part à Londres, on fait un album.
Oui.
Et donc, il faut que tu travailles pendant ce temps-là. Alors, moi, je me rendais pas très bien compte de ce que voulait dire le mot « travail ». Et puis, je lui disais que je travaillais, mais en fait, je foutais rien. sauf que j'étais en Corse et que j'avais la vieille guitare de mon père. Et
oui,
tout d'un coup, m'est venue toute la musique que j'aime.
Oui.
Donc, je n'avais pas... d'enregistreur ni de trucs à cassette, j'avais rien. Et comme j'écris très mal la musique, il m'a fallu une demi-journée pour écrire 16 mesures.
Oui.
Et quand je suis rentré à Paris, ça faisait un mois qu'il était parti, j'ai été le chercher à Orly, parce qu'on arrivait des États-Unis,
oui,
à Orly à ce moment-là. Il est arrivé avec 3 ou 4 guitares, je me rappelle plus, et il habitait dans un hôtel à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle l'Hôtel Hôtel.
Ouais.
Et il habitait, je crois, la suite ou la chambre de Mistinguette.
Et il a bien accueilli la chanson ou pas?
Alors, je lui ai fait écouter la chanson dans, ouais, un petit salon. Je lui ai fait écouter la chanson, mais la chanson n'était pas terminée parce qu'il n'y avait pas,
oui,
de texte. Alors, il est intervenu un petit peu sur la musique, sur le pont, pour la faire monter. Puis il m'a dit, il faudrait que tu écrives un texte qui ressemble à ma vie en ce moment. Et sa vie en ce moment, c'était sa séparation avec Sylvie.
Ouais.
Alors je suis parti dans ma voiture, c'était une vieille R12, toute pourrie, et j'ai écrit le texte de toute la musique que j'aime en 10 minutes.
Wow.
Ce qui est une escroquerie absolue, parce que on n'a pas changé un mot. Donc je me demande si elle m'est pas venue quelque part du ciel, ou si je n'ai pas été seulement qu'un intermédiaire.
Bon, on va rester sur cette image de chanson venue du ciel, qui est une escroquerie ou un miracle, je ne sais pas. Et on va l'écouter. Merci beaucoup, Michel Mallory,
mais
d'avoir répondu.
Je vous en prie, à très bientôt.
Et on l'écoute.
Okay.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours.
Mais oui, on va entendre Johnny Hallyday chanter dans cette deuxième partie du 13h, le choix de Mishka Assayas dans un petit instant. D'abord, bonjour Patrick Mahé.
Oui, bonjour.
Biographe de Johnny Hallyday, vous êtes l'auteur de Johnny de A à Z, de Johnny le survivant. Vous avez été rédacteur en chef de Paris Match et de Télé 7 jours. Commençons par là, Paris Match et Télé 7 jours, au fond, l'icône populaire Johnny. Johnny en couverture d'un des deux magazines, c'était des ventes démentes, j'imagine.
Bah, il fallait d'abord qu'il se passe quelque chose dans la vie de Johnny, oui. Il se passait toujours dans la vie de Johnny. Alors évidemment, divorce, rencontre, mariage, vie quotidienne, rock'n'roll, tournée américaine. C'est vrai que Johnny est le recordman des couvertures de Paris Match, qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Ça donne déjà une idée. Oui. Il a fait 77 couvertures de Paris Match. Et il est le recordman aussi des couvertures de Télé 7 jours. Oui. C'est une époque un peu plus éloignée.
Et Mathieu Culeron, qui connaît tout, me dit qu'il a fait la couve de Match à 19 ans.
Ben oui, forcément, parce qu'il oui. démarre très tôt. On sait bien que Céline Renaud qui marraine, enfin qui, comme on dirait aujourd'hui, oui. sa carrière. Et il est lancé tout de suite, quoi. Il fait aussi Salut les copains, il lance le premier numéro de Salut les copains de Daniel Filipacchi, ouais. avec un tirage de 1 million d'exemplaires.
Alors on va parler musique avec vous, Patrick Mahé, avec Mishka Assayas. Rebonjour Mishka, je vous ai salué il y a 10 minutes, on vous bonjour. A plus entendu. L'une des voix de la musique sur France Inter, évidemment, Very Good Trip de 21h à 22h, quand on n'est pas en édition spéciale, ce qui sera le cas ce soir.
Et oui.
Johnny, c'est quoi? C'est la porte d'entrée du rock'n'roll en France?
Ah bah, je crois qu'il y a eu des tentatives avant Johnny, mais c'est par lui que tout est arrivé. Enfin,
et pourquoi c'est par lui que c'est arrivé?
Alors ça c'est faudrait demander à Michel Mallory, ouais. c'est un de ses mystères. Je pense, vous savez, il était très jeune, il avait 17 ans.
Ouais.
Et il avait une sorte de feu incroyable. Et moi, ce qui me frappe quand je réentends, parce que j'ai beaucoup réentendu ce matin les premières chansons qu'il ouais. a enregistrées, c'est ce qui reste le plus, selon moi, ce sont les ballades.
D'accord.
Comme l'idole des jeunes. Et il ouais. y a une tristesse incroyable qui se mêle à cette énergie folle qu'il avait. Faut pas oublier qu'il a créé le scandale, un peu comme Elvis l'avait créé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a divisé. Vous savez, quand il est passé à l'Alhambra, enfin j'ai lu ça, j'y étais évidemment pas, il y avait au balcon les très jeunes qui avaient payé pas très cher leur oui. ticket d'entrée, qui applaudissaient à tout rompre, et en dessous les vieux à l'orchestre qui oui. hurlaient, parce qu'ils partaient en première partie de Raymond Devos, et ils ne supportaient pas qu'un dingue se mette à se rouler par terre en hurlant. Voilà.
Excusez-moi, mais c'était déjà arrivé Elvis à Las Vegas.
Exactement.
C'est Las Vegas de la même manière.
Ah oui, oui, oui.
Alors qu'est-ce qu'on a sous le coude? On a Retiens la nuit. Alors c'est parti, on écoute Retiens la nuit. Enfin, on essaye d'écouter. Oui, super.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. Nos cœurs dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie.
Patrick Mahé, je vous entendais réagir à ce que disait Mishka Assayas. Il a fait scandale souvent, Johnny Hallyday, au fil de sa vie et de sa carrière?
C'est d'ailleurs qu'en fait, au tout début, le public n'est pas préparé, évidemment, à ce type de musique. Ouais. Mais c'était pareil aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, la première fois qu'Elvis est passé sur une radio de la côte Est, sur KWK, oui. Walter Fields, c'était en 1955, a déclaré sur les ondes... Voilà, le rock and roll doit disparaître à jamais. À partir d'aujourd'hui, vous n'écouterez plus de rock. C'est fini, nous cassons les disques d'Elvis Presley. C'était en 55.
Oui.
Mais en France, lorsqu'il a chanté la chanson de Making Love, qui était une interprétation, Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1,
oui. Europe numéro 1.
Cobol, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé son disque et déclaré à l'antenne, c'est la première et la dernière fois de votre vie que vous en donnerez du Johnny Hallyday. Voilà, c'est pour dire.
Alors il y a la radio, mais Mathieu Culeron qui est à mes côtés, quand on discutait avant cette émission, vous me disiez, il y a une émission de télévision qui a été clé, Mathieu.
Oui, c'est-à-dire que c'est la fin des années 50, donc la télévision rentre dans tous les foyers, et puis quand il fait cette émission parrainée par Lynn Renault, oui. tout le monde... vraiment regarde cette émission. Et ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire que pour la jeunesse, cette émission en noir et blanc, c'est la couleur pour tout le monde. Toute la jeunesse se dit, mais c'est pour nous, il s'adresse à nous. Et c'est un succès vraiment incroyable. Et d'ailleurs, il n'y a que la jeunesse qui se retrouve un peu là-dedans. On l'a dit, parce que ça n'a pas tout de suite marché. Quand ils sont allés démarcher les professionnels de la musique, l'impresario de Georges Brassens a dit, mais ça ne marchera jamais, ça ne pourra pas marcher. Même son de cloche du côté de l'agent de Bécou, de Richard Anthony, on lui a dit, mais rentre chez toi, ça n'est pas pour ici, ça n'est pas pour la France.
Mishka ?
Oui, non, mais c'est. Il y a eu effectivement un truc incompréhensible, je crois, pour une grande partie du public. Il faut comprendre aussi, on dit la jeunesse, mais il n'y avait pas de jeunesse au sens où on l'entend aujourd'hui à l'époque. Ouais. Les jeunes étaient des vieux miniatures à l'époque. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils étaient habillés comme des vieux, ils avaient des loisirs de vieux, ils allaient dans les lieux où allaient les vieux, ils allaient voir les films pour les vieux, ils écoutaient la musique pour les vieux. Et tout à coup, il y a un type qui est arrivé qui leur a dit vous existez et vous avez une autonomie et vous êtes jeune et c'est ça qui vous caractérise. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas entendu.
Mishka, on choisit quoi maintenant ? Vous nous avez proposé San Francisco à tout casser.
Ou paradoxo.
Alors allez-y, vos choix. San Francisco.
Ça, moi, j'adore les balades de Johnny, c'est pour ça.
On écoute San Francisco.
Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien. Tous les hippies de San Francisco vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien.
Faut nous expliquer ce choix, Mishka Assayas, quand même.
Bon, d'abord parce que je trouve qu'il la chante avec sa voix de velours, avec une sobriété. Et puis alors, ce qui est très, très amusant, c'est que un an auparavant, il avait chanté Cheveux longs, idées courtes, qui était une charge, une moquerie contre Antoine et la jeunesse contestataire. Ouais. Voilà, ils croient qu'il suffit de, assis sur leur derrière avec les bras croisés, ils écrivent sur leur blouson, à bas la guerre, ou je sais pas quoi. Et un an après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chanson à la gloire des hippies et des contestataires. Et il le fait avec la même sincérité.
Il a surfé sur tous les modes toutes les modes musicales comme ça, Patrick Mahé, Johnny, au fil de sa vie et de sa carrière?
Mais complètement, il s'est adapté à chaque époque. Ouais. Il a fait Revoilà ma solitude en 78, il faisait aussi Le bon temps du rock'n'roll en 79, mais aussi Jésus-Christ est un hippie. Donc ça veut dire qu'il pouvait surfer Hamlet, n'oublions pas Hamlet. Ouais. Donc il a surfé sur tous les styles pendant un certain temps. En fait, ce qu'il avait apporté au départ aussi, c'était la grande vague du look, je reprends les propos qui viennent d'être tenus, d'une vague qui écartait ceux qu'on appelait à l'époque les croulants, qui étaient les parents, en fait, d'une certaine époque. Il est arrivé là-dessus, il a surfé sur cette vague, cette lame de fond, et c'est devenu Johnny Hallyday.
Avec
plusieurs générations, naturellement, au rendez-vous.
C'était un appel au corps, au crime, à la sexualité.
Mais complètement, il y avait d'ailleurs un look incroyable, le look Elvis et Marlon Brando et James Dean, les t-shirts blancs de James Dean, les blousons de cuir noir de Marlon Brando, le côté, la ducktail, c'est-à-dire la coupe de cheveux en canard de Hank Barnett ou de Jerry Lee Lewis. Tous les gamins de cette époque-là avaient dans la poche de leurs jeans, et le jeans à l'époque c'était une invention importante que les parents méprisaient en fait, ils avaient tous leur petite brosse en plastique dans la poche arrière pour se coiffer comme Jerry Lee Lewis ou Hank Barnett et comme Johnny Hallyday.
On va parler cinéma dans un instant, Patrick Mahé. Avant, je voudrais qu'on écoute À tout casser, ça date de 68 avec Jimmy Page, c'est un autre choix de Mishka Assayas qui va nous expliquer, il est obligé.
Je n'aime pas marcher au ralenti.
Mishka, San Francisco, je vote contre, ça je vote pour.
Vous avez raison, dans les... je ne sais pas si vous avez raison dans le premier cas. Mais, oui, parce que, écoutez, c'est un blues psychédélique, c'est en 68. Alors, on dit toujours, Johnny Hallyday a été un suiveur, etc. Mais musicalement, pas du tout, il a été à l'avant-garde. Je m'explique, en 66, c'est lui qui a fait jouer Jimi Hendrix en première partie de son spectacle.
Exact,
c'est lui qui l'a repéré à Londres.
Ouais.
Et d'ailleurs, le public a jeté
ça Jimi fait drôle,
Hendrix.
Jimi Hendrix en première partie de Johnny Hallyday.
Ouais. Exactement, voilà, oui. Et en 68, qui entend-on jouer la guitare dans ce titre? C'est Jimmy Page.
Ouais.
Qui, à la fin de...
Led Zeppelin.
Qui est joué dans les Yardbirds et qui joue dans Led Zeppelin. Donc, si vous voulez, et après, il a joué avec Steve Marriott qui était dans les Small Faces, Peter Frampton. Il s'est quand même, Tony Joe White, il a collaboré avec lui. Enfin, il s'est entouré de musiciens exceptionnels.
Mathieu Culeron, un mot, et puis Eva Bétan pour le cinéma.
Oui, on a parlé de son côté très français, qui n'était pas très connu à l'international, mais en 66, en effet, par exemple, c'est une star. Et les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Otis Redding veulent le rencontrer quand il part à Londres. C'est mais quelqu'un qu'il faut rencontrer parce qu'on se demande, mais d'où vient cette notoriété? Qui est ce Johnny Hallyday?
Alors, Eva Bétan.
Oui.
Le cinéma. Qu'est-ce qu'on retient? Johnny et le cinéma, on l'entendait dans la première partie de ce journal dire j'avais des rôles de loser, se dévaluer. Qu'est-ce qu'on retient, Eva?
Moi, j'ai envie de commencer par la fin, par le dernier film dans lequel il a joué, qui est sorti en mars de cette année. C'est Chacun sa vie de Claude Lelouch. C'est un film choral et dans les nombreuses histoires qu'il y a, il y a Johnny Hallyday qui est à la fois Johnny Hallyday. Il y a une scène formidable de concert où il y a ses sosies dans la salle. Et Lelouch joue en permanence entre Johnny Hallyday et ses sosies. Et il y a une scène culte formidable qui est qu'il en a marre de certains sosies. Il va dans un commissariat porter plainte et le policier, c'est Jean Dujardin.
Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité ?
Chanter toujours.
Allumez le feu. Ok, c'est bon, venez.
Voilà, sa carte d'identité, c'est de chanter.
Ouais, c'est ça.
Rebecca Manzoni disait ce matin très justement qu'il n'avait pas d'arrogance.
Oui.
Il avait aussi une grande délicatesse. Alors, il est dans ce tournage où il y a Jean Dujardin, Christophe Lambert, etc. Écoutez, comment Lelouch dit comment les autres, les grands acteurs, le regardaient.
Ben, ils étaient à genoux parce que c'est l'idole, ils étaient tous KO debout, on va jouer avec Johnny, enfin c'est pas rien de Johnny, et de son côté Johnny, qui est un bloc de timidité absolument incroyable, était comme un enfant devant tous. Il voyait Dujardin, il voyait Mathilde Seigner, il voyait Christophe Lambert, et d'un seul coup, c'était lui qui avait presque envie de leur demander un autographe.
Patrick Mahé, biographe de Johnny, vous êtes toujours avec nous au téléphone.
Toujours, bien sûr.
Ce que je retiens de ce que vient de nous dire Eva, et de ce qu'on vient d'entendre là avec Claude Lelouch, c'est le charisme et la gentillesse du personnage qu'on disait avec Michel Mallory.
Totalement, à tout moment. En permanence, toujours prêt à rendre un service, à dépanner quelqu'un, être à l'écoute. Simplement, je voulais dire un mot sur le cinéma.
Allez-y.
Parce que quelquefois, on a l'impression qu'il n'est qu'interprète de chansons, mais en tant qu'acteur, il a joué dans presque 40 films, mais pas avec n'importe qui. Bon, il démarre en 54 dans des petits rôles avec Clouseau, déjà, dans Les Diaboliques, faut pas l'oublier, en 54.
Oui.
Là, il côtoie Charles Vanel, Paul Meurice, des grands acteurs, même si la plupart des scènes sont coupées. Plus tard, on retrouve dans pas mal de films, mais surtout...
C'est bien de le dire quand même, qu'il y a eu des scènes coupées.
Quand il fait détective, il le fait avec qui? Avec Godard,
sous
la conduite de Jean-Luc Godard, c'est pas non plus n'importe qui. Et puis même, le conseil de famille, c'est Costa Gavras. Enfin, il tourne pas avec n'importe qui. Et il a même un prix un jour quand il tourne avec Jean Rochefort pour un film de Patrice Lecomte.
L'homme du train
2002.
Voilà. Ouais. C'est juste un mot sur le cinéma pour montrer qu'il a une carrière assez pleine malgré tout.
Et amateur de films d'horreur, me dit-on.
Oui, enfin, je dirais de grande fiction, d'horreur, oui, c'est ce qu'on appelle. Aux États-Unis, ils ont un mot pour ça là qui m'échappe sur l'instant, mais c'est plutôt des films. C'est pas de l'horreur exactement, c'est quelque chose d'autre.
En tout cas, la
déglingue cinématographique, je dirais.
En tout cas, Eva Bétan, c'était un cinéphile, Johnny.
C'était un cinéphile. Je crois qu'il devait être insomniaque parce qu'il regardait beaucoup de films la nuit. Je voudrais vous faire écouter deux choses. Un moment qui remonte aux années 60, quand le cinéma va vouloir profiter de sa notoriété, comme pour Johnny Hallyday, et on conçoit un scénario où on met une ou deux chansons cultissimes. D'où viens-tu, Johnny, en 63, western avec Sylvie Vartan en Camargue.
Ma guitare s'enflamme de joie quand tu es là. Ma guitare redonne en bleu.
À Alors, Patrick Mahé a parlé de Godard. Ça a été important parce qu'à un moment donné, il voulait un vrai rôle. Et un vrai rôle, on va pas dans une salle voir Johnny Hallyday, on va voir le film 2. Et la quintessence du cinéaste, même s'il ne comprend pas grand-chose à ses films, c'est Godard. Et c'est comme ça qu'il tourne détective. Est-ce que Godard savait qu'il aimait la boxe? Il lui fait jouer le rôle d'un manager de boxe. Je voudrais maintenant vous amener en Asie. Il tourne avec Johnny To, Vengeance. Ouais. Le film est en sélection officielle au Festival de Cannes. Et ça a dû être une chose assez extraordinaire pour lui parce qu'à Hong Kong, l'équipe du film ne le connaissait absolument pas. Johnny Hallyday.
Tout le monde m'a toujours traité comme acteur et pas comme chanteur.
Et vous, est-ce que c'est un bonheur d'être traité comme acteur?
Bah oui, bien sûr, surtout dans un pays où j'ai un rôle difficile à faire et à interpréter et qu'il n'y ait pas de confusion, surtout. Ça aide en tant qu'acteur à se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, en tout cas, et proche de la réalité.
Là-bas, vous n'êtes pas connu, c'est ça?
Là-bas, je ne suis pas connu, non. Ce qui est bien. Ouais. Oui.
Et est-ce qu'on se dit « je ne suis pas Johnny Hallyday » pendant quelque temps, en ce moment-là?
Je vis avec Jean-Philippe Smets, je ne vis pas avec Johnny Hallyday.
Wow, incroyable.
C'est pas beau, ça?
Une anecdote, Eva, qui dit quelque chose du magnétisme de Johnny.
Oui, alors c'était au Festival de Cannes, donc on faisait... Il donnait quelques interviews, pas énormément. Et puis, quand on arrive... C'est assez émouvant parce qu'il était là, il y a beaucoup de monde et il donne une impression de solitude. Et quand vous êtes en face de lui, il vous regarde avec attention, avec gentillesse, avec bienveillance. Et on me dit que juste avant nous, il y avait une personne d'un organe de presse très important, très intellectuel, j'allais dire, qui avait éclaté en sanglots en l'interviewant. Je trouvais l'histoire très belle.
Vous avez été témoin de beaucoup de choses, de beaucoup de scènes de cette nature, Patrick Mahé?
Oh, bah, pas mal, effectivement, des anecdotes, même en pagaille, on peut dire, à Las Vegas, notamment, parce qu'à Las Vegas, je prends un exemple, malheureusement, le show n'a pas été une réussite absolue, et la première réaction de Johnny à Las Vegas, alors que ses fans disaient, en l'excusant, et ça, je l'ai entendu 100 fois, oh là là, les Américains ont saboté le show de Johnny parce qu'ils ne voulaient pas qu'il dépasse Elvis. C'est quand même énorme. Ouais. Et les fans disaient ça. Eh bien, Johnny a pris la parole et a dit à son manager, tous ceux qui sont venus et qui ont été déçus pour telle et telle raison, eh bien, on va leur offrir un show gratuit après, au retour en France. Incroyable. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait pour les 5000 fans qui s'étaient donné la peine de se déplacer par avion spéciaux vers Las Vegas. Ils ont eu droit au retour à un show spécial pour eux. Un cadeau qu'il aura fait.
Mishka Assayas, la phase 2, disons, de la carrière musicale de Johnny, on revient à la musique. L'époque Goldman, l'époque Michel Berger, c'est ce qu'il a relancé parce qu'il y a eu un creux
Un creux. Écoutez, ça, il y en a d'autres qui en parleront beaucoup mieux que moi. En revanche, ce que je peux...
Vous dites ça et après vous en parlez bien généralement, c'est ça qui se passe.
Non. Ce dont je voulais parler surtout, c'était de sa fidélité aux racines du rock'n'roll. Parce que jusqu'à la fin de sa carrière, il a enregistré des disques de rock'n'roll. Il a repris Chuck Berry, il a repris Eddie Cochran, il a repris Buddy Holly, jusque dans les années 90. Et c'est ce qu'il a, selon moi, ce qu'il a fait toujours de mieux.
Et ça, c'est ce qui va se produire dans quelques semaines.
Et ça n'est pas terminé, puisqu'en effet, Michel disait, c'est un espèce de retour aux sources depuis qu'il a son nouveau directeur musical qui est Yarol Poupeau, qui a voulu enlever ce côté un peu variété, revenir aux sources du rock'n'roll. Et il est en train de, normalement, il a terminé un futur album qui devrait sortir bientôt, qui est un retour vraiment au rock'n'roll de base, de ses amours, de son enfance, qu'il a enregistré chez lui à Marne-la-Coquette. Un album qui devrait donc sortir prochainement.
Patrick Mahé,
si vous permettez, alors le lien est évident, c'est que Johnny n'a jamais coupé les racines du rock'n'roll, comme Elvis Presley d'ailleurs n'avait jamais coupé les siennes quand le colonel Parker, son manager, l'a engagé dans des films un peu ratés, des espèces de bluettes, il n'y a que 3 bons films dans la carrière d'Elvis sur 31, et en 68, il a repris lui-même son destin en main lors d'un comeback spécial à la télévision sur les racines du rock'n'roll. Et Johnny a fait la même chose. Et Johnny a toujours rendu hommage à Elvis et au grand patron du rock'n'roll dans ses concerts, y compris au Stade de France. Pour moi, un des meilleurs disques, je ne sais pas si je serais contredit, de lui, c'est le disque de Nashville en 84. Là, il est avec
approbation de Mishka.
Carl
Perkins, les Everly Brothers, Tony Joe White. Ça, c'est fantastique.
Merci à tout le monde. Merci Michel Mallory, merci Patrick Mahé, Mishka Assayas, Eva Béton, Mathieu Culeron. Johnny est mort et nous le regrettons et nous l'écoutons beaucoup aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Noir, c'est noir.
ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au cri de l'ennui et je te crie oh 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 oh. Je ferai tout pour sauver notre amour tout jusqu'au bout.
Johnny Hallyday, Noir c'est noir, et Souvenir, souvenir, c'est le titre de cette journée spéciale que vous propose France Inter. Ça continue dans les flashs dans un instant avec Sébastien Logeni. Puis à partir de 16h, un spécial pop 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 avec Antoine Decaune. Les Belges à 17h, un jour dans le monde, Johnny et les USA à 18h. Et puis vous, votre Johnny, vous nous le racontez dans le téléphone sonne, qui garde son numéro habituel, hein, 01 45 24 7000, 01 45 24 7000. Cela dit, dès maintenant, vous pouvez aussi laisser vos témoignages à un autre numéro, 01 56 40 55 35, qui seront diffusés au cours de notre soirée spéciale de 20h à minuit, car oui, la journée spéciale Johnny continuera 20h minuit. Didier Varro aux manettes, et vous entendrez à nouveau Mishka Assayas.